Et si on en parlait ? Un magazine culturel présenté par Souadinal et Manika Lafer. Réalisé par Soufiane Manik.
Amis auditeurs, bonjour. Au mois de septembre, j'ai eu l'occasion d'assister à Bruxelles à un programme d'information avec d'autres journalistes maghrébins, marocains et tunisiens, au programme MEDA, le partenariat euro-méditerranéen. C'est quoi le programme MEDA ? La déclaration de Barcelone, adoptée le 28 novembre 1995 lors de la conférence euro-méditerranéenne des ministres des Affaires étrangères, a instauré le partenariat euro-méditerranéen. Il s'agit d'une initiative commune aux 27 partenaires réunis à Barcelone, les 15 États membres de l'Union européenne et 12 partenaires méditerranéens pour créer des liens durables dans tous les domaines d'intérêt commun, questions politiques et de sécurité, questions économiques et financières, questions sociales, culturelles et humaines. Le partenariat euro-méditerranéen a donné lieu à de multiples projets et activités pour lesquels l'Union européenne, lors du Conseil européen de Cannes en juin 1995, a décidé de consacrer des ressources budgétaires d'une ampleur sans précédent pour cette région. Il s'agit notamment du programme MEDA qui octroie des subventions et auquel s'ajoutent les ressources propres de la Banque européenne d'investissement. L'Algérie n'a pas tellement tiré profit du programme MEDA. Selon un expert, cette situation pourrait changer pour MEDA 2 qui débutera en 2001. Pour essayer de rattraper le retard et utiliser les reliquats, trois projets importants de développement du secteur privé ont été lancés en 1999. Ils visent un appui au secteur PMI-PME, 57 millions d'euros, la création de sociétés financières et les réformes qui seront entreprises au niveau de la réglementation pour appuyer les réformes économiques. Le programme de privatisation va bénéficier de 38 millions d'euros. Une enveloppe de 5 millions d'euros est affectée pour l'appui aux organisations non gouvernementales, ONG. D'autres enveloppes seront dégagées aussi. D'autres enveloppes seront donc dégagées aussi. Dans l'objectif de MEDA 2, la Commission européenne compte renforcer la coopération avec l'Algérie.
Monsieur Van der Melen, vous êtes chef d'unité pour le Maghreb. Comment qualifieriez-vous les relations entre l'Union européenne et le Maghreb ?
Entre l'Union européenne et le Maghreb, excellent. Grâce à un nouveau élan dans notre relation, peut-être vous avez entendu parler d'une déclaration de Barcelone où le pays du sud de Méditerranée et l'Europe ont se mis d'accord sur un programme ambitieux de trois piliers. De créer dans la Méditerranée une zone de libre-échange, de sécurité et de stabilité, et d'avoir un plus grand échange culturel humain entre les deux rives. Et avec le Maghreb, il est traditionnellement excellent, et il prend avec l'Algérie les dernières années encore plus d'ampleur.
On va faire un peu d'histoire si vous voulez bien. Et quelles sont les plus grandes étapes que l'Union européenne a connues avec le Maghreb ?
Oui, depuis des années, 20 ans, 30 ans, on a déjà des relations, on a déjà des accords de coopération, on a eu déjà depuis 10 ans un accès libre sur notre marché des produits industriels de Maghreb et d'Algérie, de Tunisie, bilatéralement. Mais grâce à cette déclaration de Barcelone que j'ai déjà mentionnée, on espère que les choses prennent un nouveau élan. On a déjà conclu un accord d'association avec la Tunisie, avec le Maroc, Jordanie, j'espère dans quelques semaines avec l'Égypte. Et nous sommes aussi en train de négocier avec l'Algérie un accord d'association. Et ça, c'est une concrétisation sur le niveau bilatéral de déclaration de Barcelone.
Justement, à propos de la relation que l'Union européenne avec l'Algérie, les choses ne se sont pas très bien passées, du moins. Et aujourd'hui, comment les choses vont-elles ?
Ils ont pris un autre élan, j'ai déjà fait allusion à ça. On a eu des visites de Troïka, on a eu des visites de votre ministre des Affaires étrangères, des vues de gens déjà en Vienne, qu'on a eu des rencontres Troïka en Alger, une rencontre avec votre président, et je dois dire, avec l'élection de votre président, les choses ont pris une vitesse qui est tout à fait remarquable. Des négociations qu'on a avec vous maintenant chaque mois sur cet accord d'association, de contacts techniques, et ça va rapide, ça va très rapide.
La déclaration de Barcelone qui a été adoptée le 28 novembre 1995 lors de la conférence euro-méditerranéenne des ministres d'affaires étrangères a instauré donc le partenariat euro-méditerranéen. Il s'agit notamment donc du programme MEDA. Alors, a-t-il suscité une redéfinition des relations avec la communauté? Et puis, parlez-nous aussi du programme MEDA.
Il a donné une nouvelle dimension, dans le sens que le montant de coopération financière est devenu beaucoup, beaucoup plus important. On a eu toujours des protocoles financiers depuis de 30 ans en plus de relations entre l'Union et l'Algérie. Mais avec Barcelone, le montant est monté avant 1 milliard d'euros par an pour le sud du Méditerranée. Alors, c'est devenu un fonds très, très important. C'est un de fonds perdus, c'est-à-dire ce sont des dons. C'est très important.
Est-ce que l'Algérie a bénéficié de ce programme?
Moins qu'on souhaitait. D'abord, le fonds MEDA sont là pour réaliser ou faire la réalisation possible de Barcelone. C'est-à-dire concrètement, on conclut un accord d'association. Ça veut dire qu'il y a besoin dans ce pays en question une réforme économique, une mise au niveau de l'économie. Et le fonds MEDA sont là pour l'appuyer. Avec l'Algérie, nous sommes au début des négociations, au début, mais nous sommes bien avancés, mais nous sommes au milieu de négociations. Alors c'est logique aussi que cet argent MEDA n'a pas encore arrivé, comme par exemple en Tunisie, au Maroc. Mais avec la progression dans les négociations, il n'y a aucune raison pourquoi cet argent MEDA n'arrive pas non plus en Algérie.
Plusieurs axes sont au programme. Il y a des priorités, lesquelles?
Mon priorité est la priorité après, parce qu'on a presque passé une première expérience maintenant avec MEDA. MEDA 1, c'est presque terminé. On va vers MEDA 2. Et les leçons, il y a plusieurs leçons qu'on apprend toujours, mais une leçon de MEDA 1, c'est qu'on a peut-être dispersé notre argent un peu dans toutes les directions. Les devis de coopération entre l'Algérie et l'Europe dans le futur, c'est de faire en sorte que cet accord d'association peut se bien développer. Alors, de cette logique, c'est que pour nous, la priorité, ça doit être réforme économique. On a fait déjà le secteur privatisation, on veut assistance technique pour la mise à niveau, on va continuer avec ça. Et bien sûr, l'autre côté de médaille, l'impact social d'ouverture de marché doit être appuyé aussi par l'Union européenne. Mm-hmm. Alors on a aussi nous sommes en train de négocier sur un fonds social d'une 60 millions d'euros, déjà avec l'Algérie, même si cette ouverture de marché n'a pas encore commencé, mais on trouve que ça doit être en place maintenant déjà.
L'Union européenne, la coopération est uniquement avec les gouvernements des pays respectifs?
Non, la coopération avec l'Union européenne, c'est avec la Commission européenne, oui. Avec l'Union européenne. Et à part ça, il y a des contacts bilatéraux entre la France, l'Allemagne, les Pays-Bas, les Italiens. Mais c'est grâce à la création de l'Union européenne, en premier lieu, avec l'Union européenne, mm-hmm. en tant qu'entité internationale et supranationale.
Je parlais de la Commission lorsqu'il y avait projet. Elle se fait automatiquement avec les gouvernements respectifs.
On le fait directement de la Commission de l'Union européenne avec l'administration algérienne ou bien de ONG algérien ou bien, de, si c'est nécessaire dans le futur, une patronat ou de firmes algériennes. Là, les contacts sont diversifiés, mais à notre côté, c'est en effet toujours l'Union européenne qui le conclut. Et on utilise des firmes européennes pour l'exécuter ou des consultants européens. Les exécuteurs sont divers. Et je crois que le plus divers possible, les parties contractantes, c'est l'État algérien et nous, la Commission européenne, l'Union européenne.
Maintenant, la Commission peut coopérer avec le secteur privé, avec les ONG. Et pour nos amis qui nous écoutent, lorsqu'on fait partie d'un secteur privé, comment fait-on? Quelle est la procédure pour arriver jusqu'à la Commission et comment, par quel chemin doit-on passer?
On n'a pas encore ces instruments sur place en Algérie, mais pour vous donner l'exemple des voisins, là, on a des instruments très importants pour le secteur privé. On a, par exemple, un programme de contrôle de qualité, où il y a une formation et un appui des industries qui veulent faire l'exportation, que cette qualité de produit est constante, plus haut niveau, et capable d'entrer dans le marché européen. On a des business centers qui donnent un appui, un audit des firmes en question, voir quelles sont les faiblesses, quelles sont les choses à améliorer et qui peut éventuellement fournir aussi l'assistance technique pour retaper cette situation. Jamais. Autre chose, c'est qu'on fait une assistance, c'est peut-être moins direct, mais on donne aussi une assistance à la réforme du secteur financier. Parce que nous sommes convaincus que ce n'est pas l'Union européenne qui va donner des subventions directes aux entreprises. On crée le cadre, on a créé, éventuellement, on assiste avec une éducation, avec une assistance technique pour signaler des problèmes gauche et droite, mais des investissements propres dans la machine, etc. Je trouve que ça, c'est certainement pas notre rôle. Ce sera une approche qu'on a choisie ici dans les 70 en Europe et qui a donné, à mon avis, des résultats tout très médiocres, pour pouvoir dire de temps en temps de très mauvais résultats. Alors, c'est ça le secteur financier qui doit jouer son rôle. Mais pour toute assistance technique, audit, analyse, etc., nous sommes, par le moyen de business center et autres projets, on va essayer de faire le maximum de notre côté.
Est-ce que le projet est accepté? Est-ce qu'il y a un accompagnement de la part de la Commission?
Dans le sens qu'on va fournir, parce que je ne crois pas que, pour répondre un peu cru à vos questions, sont pas de bureaucrates qui doivent, à mon avis, donner une assistance aux entreprises. On crée le cadre, on crée l'accord, la convention de financement, mais après, on fait par des appels d'offres, on fait appel aux consultants européens et algériens pour exécuter cette sorte de programme. Moi, je tiens beaucoup que je suis fonctionnaire et que je fais peut-être un travail utile ou moins utile, mais ce n'est pas le secteur privé que je dois me mêler directement.
C'est bientôt MEDA 2. Est-ce qu'il y a une différence entre le premier et quelle expérience pouvez-vous en tirer? Oui. Par rapport au premier?
J'ai mentionné déjà une que je trouve qu'il faut qu'on va convergir plus vers un appui, un accompagnement de cette mise à niveau et l'exécution de l'accord d'association dans tous ces aspects. Ça, c'est une leçon. La deuxième leçon, c'est que notre exécution était pas très rapide. Je n'ai pas dans le cas de l'Algérie. Il y avait tout ça d'autres raisons. Mais même avec des pays où ce contact était plus intensif dans le passé, notre exécution était trop lente. Nos procédures sont trop compliquées. Il faut que dans le futur, on trouve des instruments où on n'a pas 1000 appels d'offres et tout ce travail souvent lente, inutile, et qui fait en sorte qu'on n'arrive pas avec nos moyens sur le terrain au moment que c'est nécessaire. On a des idées. On va l'implémenter pendant MEDA 2 et j'ai confiance que si on le fait bien, on va arriver aussi avec des instruments financiers qui sont plus rapides sur place.
Un dernier mot pour les Algériens qui vous écoutent ce matin.
Un accord d'association avec l'Union européenne, ça ne va pas signifier uniquement un contact entre industrialistes, entre industries. Ça ne va pas être une vue uniquement, même que je parlais beaucoup de l'économie, comme un moyen économique. C'est surtout un moyen pour faire en sorte que l'économie algérienne arrive à un niveau qui est comparable et qui va faire à la même vitesse que celui-ci en Europe. Ça, c'est un défi. C'est un défi pour vous, pour nous. Il ne faut pas non plus faire des mythes autour de cet accord d'association. C'est pas une. On parle beaucoup, on va donner accès libre à des produits européens sur le marché algérien. Bien sûr, mais sur entre 12 et 15 ans, avec une avec de démantèlement tarifaire à la fin uniquement des produits sensibles pour le côté algérien, avec un appui important financier de l'Europe et de la Banque mondiale et des donneurs bilatérales pour faire en sorte que ça marche. Parce que, et c'est ça la conclusion que le gouvernement algérien aussi a tirée, de rester sur place, immobilité, passivité, on ne va pas sortir ni en Europe, ni chez vous, de problèmes qu'on a tous.
Ce matin, nous avons M. Georges Ingberg, qui est administrateur principal à la Commission européenne et qui est actuellement sur la formation de l'euro. Alors, M. Georges Ingberg, je vous ai choisi pour que vous nous racontiez un peu l'histoire de ces États membres, qui est l'Union européenne. Et on sait qu'elle a toute une histoire, que les choses ont commencé à partir de 1951, juste après, quelques années après la Deuxième Guerre mondiale.
En effet, disons, pour faire un raccourci un petit peu violent, qu'il a fallu pratiquement 20 siècles de guerres ininterrompues, depuis le début de l'ère chrétienne, jusqu'au siècle dernier, le XXe siècle, marqué par deux guerres mondiales effrayantes, deux boucheries, pour que l'Europe trouve la voie d'une paix durable et d'une intégration pacifique. Et je dirais, pour aller à la conclusion essentielle, que cette paix durable est désormais acquise pour une période illimitée entre les États membres de ce qu'on appelle aujourd'hui l'Union européenne. Et si le seul acquis de l'Union européenne avait été de fonder cette paix durable, cette Union européenne mériterait de figurer dans les annales et dans l'histoire. Je citerai à ce point de vue-là un traité que le philosophe allemand Kant a écrit et qui est une utopie, mais qui montre bien la préoccupation des hommes et qui s'appelle « Traité de la paix universelle ». C'est une préoccupation que l'on retrouve au fil des siècles, mais qui n'a pu se concrétiser durablement entre les membres de cette Union européenne que lors de la seconde moitié du XXe siècle. À cet égard, c'est donc véritablement une première historique. La paix règne désormais au cœur de l'Europe et pour une période illimitée. Au-delà, bien entendu, je voudrais évoquer très rapidement pour vos auditeurs les étapes de cette construction, car comme toujours, il s'agit de répondre aux trois questions essentielles. D'où venons-nous? Où en sommes-nous? Et où allons-nous? Eh bien, d'où vient l'Europe? Effectivement, elle est née au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, je dirais sur les décombres de la guerre entre l'Allemagne et les pays alliés. Et elle est née 5 ans à peine après l'effondrement de l'Allemagne nazie, alors que deux hommes d'État français, Robert Schuman et Jean Monnet, eurent les premiers l'idée de mettre en commun les ressources charbonnières et sidérurgiques de la France et de l'Allemagne, qui à l'époque étaient les deux paramètres qui définissaient de la manière la plus marquante les richesses nationales, mais aussi avec l'arrière-pensée de rendre une nouvelle guerre impossible, puisque pour faire des canons, il fallait et du charbon et de l'acier. Aujourd'hui, il faut toujours de l'acier et du charbon pour faire des armes. Et cette association n'a pas seulement rassemblé l'Allemagne et la France, mais elle a dès le départ rassemblé également l'Italie, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg. Ceci dès 1951, qui a donc vu naître la première communauté, celle du charbon et de l'acier, connue sous le sigle CECA, Communauté européenne du charbon et de l'acier, regroupant 6 États membres ou 6 États fondateurs. En 1958, la deuxième communauté et la troisième communauté, entre les 6 mêmes États fondateurs, voyaient le jour. Il s'agissait, ils existent toujours d'ailleurs, de la Communauté économique européenne, aussi connue sous le nom de marché commun, et de la Communauté européenne de l'énergie atomique, connue sous le nom d'Euratom. Ces trois communautés comme celle qui verra le jour par la suite, et comme toutes les étapes ultérieures, sont fondées sur des traités qui sont une nouveauté sur le plan international, en ce sens que ces traités sont juridiquement contraignants. Cela veut dire qu'une fois signés et ratifiés par les États membres, ils obligent les États membres à s'y conformer. Et ceci marque une rupture par rapport à tous les autres accords internationaux qui sont signés, qu'il s'agisse de la Charte des Nations Unies, de l'appartenance à n'importe quelle autre organisation internationale ou mondiale, où il y a bien des chartes, il y a bien des principes, mais ces principes, même s'ils ne sont pas respectés par les États membres, même s'ils sont délibérément violés, n'emportent aucune sanction concrète pour ces États. Un blâme, une pression, un recul moral, mais cela ne va pas au-delà. Alors que dans ce cadre-ci, il s'agit d'une obligation juridique volontairement contractée par les États, ce qui explique aussi pourquoi le droit joue un rôle aussi important dans l'édification de ces trois communautés, et ça explique aussi pourquoi toutes les décisions prises par cette communauté se fondent sur les traités, sur le droit qui en découle et se traduisent notamment par ce que l'on appellera des lois européennes qui s'appliquent à tous les États de l'Union qui priment le droit national. Autrement dit, quand une décision est prise au niveau européen entre ceux qui sont aujourd'hui les 15 États membres de l'Union européenne, cette décision engage les 15 États membres, elle oblige les 15 États membres à s'y conformer, et les États membres doivent soit reprendre cette décision telle qu'elle dans leur législation nationale, soit adapter leur législation nationale en conséquence. Ceci pour illustrer brièvement la primauté de ce que l'on appelle le droit communautaire sur le droit national. On voit bien que c'est un principe fondamental qui change la nature du droit international prévalant entre les États membres, puisque dans les limites qui sont les siennes, il prime la souveraineté nationale et le droit national. C'est en cela que l'Europe a pu s'édifier, parce que les États ont accepté de se soumettre à un ordre juridique défini de commun accord, en commun, et ont donc accepté de se plier à ces nouvelles règles du jeu. L'ordre économique, pourquoi ? Parce que les trois premières communautés qui ont été créées, les trois communautés, c'est-à-dire charbon, acier, communauté économique et communauté de l'énergie nucléaire, sont des communautés à vocation économique. L'Europe est née sur des fondations, sur des fondements économiques. Et c'est sans doute ce qui lui a permis de se développer, comme elle le fait, comme elle l'a fait jusqu'à présent, et qui garantit en quelque sorte son évolution ultérieure. J'en reviens brièvement, très brièvement, à l'évolution ultérieure. Donc, je rappelle, 1951, première communauté, celle du charbon et de l'acier, 6 États. 1958, deuxième et troisième communauté, entre les mêmes 6 États. Et puis, entre 1973 et 1986, nous nous élargissons et nous sommes rejoints par le Royaume-Uni, le Danemark, l'Irlande, puis la Grèce, puis l'Espagne et le Portugal, ce qui porte notre nombre, en quelques années, de 6 à 12 États.
Alors, Monsieur Georges Hindenberg, en 1992, un nouveau traité qui marque une époque importante, c'est le traité de Maastricht. Pourquoi ?
Parce que nous changeons de nom. Au lieu de nous appeler, comme jusqu'à présent, Communauté européenne, regroupant les trois communautés en question, nous devenons Union européenne. Pourquoi cela ? Pas évidemment pour le simple plaisir de changer de nom, mais parce que nous avons désormais des dimensions politiques que nous intégrons dans nos structures et qui font que, effectivement, nous ne pouvons plus nous réduire à une simple communauté à vocation essentiellement économique. Jugez-en vous-même, il y a pour l'essentiel 4 nouveaux chapitres qui sont introduits dans le processus d'intégration européenne. D'une part, la monnaie unique, qui est aujourd'hui la monnaie unique de 12 des États, des 15 États actuels de l'Union européenne. D'autre part, un début de politique étrangère et de sécurité commune. En troisième lieu, de nouveaux droits pour tous les citoyens nés sur le territoire des États membres de l'Union européenne. Et en dernier lieu, un début de collaboration entre États en matière de sécurité publique. on veut lutter contre le crime organisé, mais à l'échelle de l'Union européenne, et un début de collaboration entre États membres en matière d'immigration. Or, ces quatre matières, monnaie, politique étrangère, droit des citoyens et ce qu'on appelle justice et affaires intérieures, c'est-à-dire lutte contre le crime organisé et gestion de l'immigration, étaient jusqu'à présent l'apanage, le privilège exclusif de la souveraineté nationale. Personne ne pouvait, jusqu'à il y a peu, intervenir dans ces domaines qui étaient en quelque sorte des vaches sacrées.
On va parler justement de ces pays de l'Est, ces pays européens de l'Est, qui aussi vous exigent une politique intérieure, c'est-à-dire il faut changer de politique, il faut passer à un autre système politique pour pouvoir y adhérer à cette Union européenne.
Disons brièvement ceci, les pays de l'Est se sont tournés vers l'Union européenne au moment où le bloc soviétique a montré les premiers signes de fragmentation, et ensuite a implosé. Fin 1991, l'Union soviétique a cessé d'exister en tant que telle. Or, le processus d'émancipation des anciens satellites de l'Union soviétique s'est amorcé vers la fin des années 80. En 89, ça a commencé par la Hongrie, la Pologne, la Roumanie, la République tchèque. On pourrait allonger la liste. Résultat de ce processus de remodèlement de l'ex-zone d'influence soviétique, nous avons aujourd'hui pas moins de 13 pays qui sont candidats à l'adhésion à l'Union européenne, dont 10 pays d'Europe centrale et orientale. Alors, ça a des conséquences considérables, sur lesquelles je ne m'étendrai évidemment pas dans le cadre de cette interview. Je dirais simplement que à l'issue de ce processus qui va s'étaler sur une dizaine d'années, l'Union européenne, qui compte aujourd'hui 15 États membres, en comptera 27 ou 28, soit les 12 candidats actuels, plus la Turquie, qui deviendra membre de l'Union européenne. Notre territoire, le territoire global de l'Union, sera considérablement accru, notre population aussi, mais également notre produit national européen, si j'ose dire, mais également notre influence économique et politique dans le monde. Donc, quelque part, au terme de cet élargissement, le poids spécifique de l'Europe, à la fois à l'échelle continentale et à l'échelle mondiale, aura changé, se sera accentué, et l'Europe pourra jouer le rôle qui peut lui revenir en raison de sa taille, de sa richesse, de la richesse qu'elle produit, de ses populations. Elle pourra jouer le rôle qui correspond en quelque sorte à ces nouveaux paramètres. Mais bien entendu, cela implique une réforme de notre système de décision, de prise de décision, car nous avons actuellement un processus décisionnel qui est hérité des années 50. Si nous ne l'adaptons pas, nous allons être paralysés. On ne peut pas gérer une famille de près de 30 membres comme on gérait une famille de 6 membres ou aujourd'hui de 15 membres. Donc ça nous contraint à procéder à une révision de nos institutions, qui est en cours d'ailleurs, avant l'élargissement, avant que de nouveaux membres nous rejoignent, parce que sinon la négociation sera encore un peu plus difficile.
Alors, Monsieur Georges Hindberg, comment fait-on pour adhérer à l'Union européenne? Et ma deuxième question, oui, l'Européen aujourd'hui face à cette nouvelle donne, face donc à la nouvelle monnaie, la monnaie unique, le renoncement à l'État-nation, quelles seront les conséquences?
Eh bien, il faut répondre à quelques critères tout à fait fondamentaux. Il faut tout d'abord être une démocratie, ce qui implique un système parlementaire, un système autorisant plusieurs partis, ce qui implique bien entendu la capacité, la possibilité pour les citoyens de changer de parti et de changer de gouvernement. Mm-hmm. Sans cette condition, il n'est pas possible de postuler dans l'Union européenne. En second lieu, il faut également être doté, il faut respecter les droits de l'homme. En troisième lieu, il faut pratiquer l'économie de marché. Et pour revenir un instant à ces pays de l'Est, évidemment, pendant près de 50 ans, ils ont été soumis à un parti unique et à une économie étatique. Et le bond considérable, le saut extraordinaire qu'ils sont en train de faire, c'est justement d'achever leur passage à la démocratie d'un côté, au multipartisme, et d'autre part, leur conversion à l'économie de marché. Car ces marchés doivent s'ouvrir à la concurrence. Nous allons importer leurs produits, eux vont aussi devoir s'ouvrir aux nôtres. Et ils s'intégreront donc à terme complètement. Ils reprendront également l'euro à leur compte quand ils y seront prêts. Et donc il y aura une intégration politique, économique, etc. Et donc c'est un processus aux implications considérables. Et donc tout nouveau candidat doit être européen pour commencer, c'est-à-dire faire partie de l'Europe au sens géopolitique du terme et remplir ses conditions fondamentales. Alors vous m'avez demandé quel est le sentiment des citoyens de l'Europe actuelle, des 15, car nous sommes aujourd'hui 15 États membres de l'Union européenne face à ces développements. Ce n'est pas très évident car les citoyens ont bien sûr leurs préoccupations quotidiennes et aussi parce qu'il y a un déficit global de formation et de sensibilisation à cette nouvelle dimension que leur offre l'Europe, la citoyenneté, leurs nouveaux droits, ce qui s'y passe, pourquoi c'est important. Il y a donc un déficit constant d'information qui n'est pas suffisamment comblé, d'une part parce que les institutions européennes ne peuvent pas tout faire, elles n'en ont pas les budgets, d'autre part parce qu'elles ne peuvent pas se substituer aux États membres, et enfin parce que les États membres ne sont pas tellement désireux de voir le thème de l'Europe et des nouvelles dimensions qu'elle importe et qu'elle implique exalté sur tous les tons, aux différents niveaux. Mais, disons, pour revenir à quelque chose de simple et de fondamental, je dirais que la citoyenneté européenne se forge essentiellement à l'école. Et par conséquent, à partir du jour où ce sentiment d'appartenance à l'Union européenne fera partie des cours de ce que l'on pourrait appeler éducation civique européenne, on va évidemment assister à un changement d'attitude au niveau des jeunes générations qui prendront aussi naturellement possession du nouvel espace européen qui s'ouvre à eux, aussi naturellement de leur nouvel espace européen, fait aujourd'hui de 15 pays et demain de 30 pays, que leurs parents et leurs grands-parents ont pris naturellement possession de l'espace national de leur pays d'origine.
Alors, monsieur Ingbert, tout à l'heure, hors antenne, vous me disiez, bien sûr, c'est toujours une minorité qui décide des transformations. Mais pour nous, on est un peu, c'est vrai, on se pose des questions à propos de la monnaie, l'euro. Cette monnaie qui va avoir une équivalence partout dans tous les pays européens, à qui il faudra s'y adapter. Comment ça va se passer?
À nouveau, pour rester tout à fait simple, pour commencer, il faut savoir que dès aujourd'hui, la parité, le taux de change entre l'euro, la nouvelle monnaie, et les monnaies nationales qui existe, est fixé de manière irrévocable. Ainsi, un euro vaut 6, quelques francs français, n'est-ce pas ? Et il n'est plus question de changer cette parité. Le 1 euro vaut une fois pour toutes 6, quelques francs français, vaut 40, quelques francs belges, etc. etc., etc. Donc, d'une part. D'autre part, les États ont déjà adopté l'euro pour exprimer leur dette nationale. Vous pouvez déjà conclure des contrats en euros. Ça va simplifier la vie des citoyens, car un citoyen qui part de France et qui va en Italie pourra comparer les prix immédiatement en euros et ne devra plus passer par le taux de change franc-français-Italie. Les pièces et les billets seront mis en circulation dès le 1er janvier 2002. Et dans les quelques semaines qui suivront cette date du 1er janvier 2002, toutes les pièces et tous les billets nationaux des 12 États aujourd'hui concernés seront retirés de la circulation. Il n'y aura plus que des euros. Donc, dans moins d'un an et demi, 12 pays au moins, je parle de la situation d'aujourd'hui, auront ce qui s'appelle basculer dans l'euro et il n'y aura plus ni drachme grecque, ni franc français, ni marque allemande, ni lire italienne, ni aucune autre monnaie nationale destinée à être remplacée par l'euro. Et notre effort porte actuellement sur la sensibilisation et la familiarisation du plus grand nombre possible de citoyens, de membres de la société civile, de petites et moyennes entreprises, par exemple, afin que le jour venu, il n'y ait pas paralysie et panique en disant « ça y est, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, qu'est-ce que ça vaut, etc. » Il s'agit de créer chez les consommateurs que nous sommes tous l'habitude de jongler avec l'euro et l'habitude d'avoir en tête une liste, en quelque sorte, de produits de base dont on connaîtrait la valeur en euros, de façon à ne pas devoir se livrer à de laborieux calculs à partir du 1er janvier 2002 en disant, mon Dieu, 3,55 €, qu'est-ce que ça peut bien faire? Est-ce que je ne suis pas en train de me faire rouler, n'est-ce pas? Donc, il s'agit de renoncer à un système de référence, qui est celui des devises anciennes, et de familiariser les citoyens, qui sont tous, tant qu'ils sont des consommateurs aussi, des agents économiques, pratiquement à tout âge, de les familiariser avec le nouveau code, le nouveau système de référence, le nouveau système de valeur monétaire que représente l'euro. C'est un saut qualitatif, mais la décision est prise, le processus est irréversible, il nous reste à peu près 1 an et demi pour y préparer nos opinions publiques. Ce n'est pas beaucoup, mais cela doit suffire.
Et le problème de l'Angleterre qui refuse ? Comment réagissez-vous ?
Il n'y a pas à réagir pour la simple raison qu'au moment où l'Angleterre a ratifié le traité de Maastricht en 1992 qui introduisait le principe d'une monnaie commune, l'Angleterre l'a ratifié à condition de bénéficier d'une exception, d'une exemption de l'obligation de faire partie de l'euro le jour venu. Elle est toujours sous ce régime d'exception, qui est donc entériné par le traité. Elle a la faculté de renoncer à ce régime d'exception quand elle le souhaite. C'est une question, c'est une décision politique et financière qui leur incombe. Et c'est un problème qui se pose dès aujourd'hui au gouvernement britannique. Je m'empresse d'ajouter qu'au moment où je vous parle, c'est-à-dire en ce 14 septembre, on attend l'issue d'un référendum qui sera organisé dans quelques jours au Danemark. À l'issue duquel la population danoise sera appelée à se prononcer par oui ou par non sur l'opportunité pour le Danemark d'entrer dans la zone euro ou pas. Donc aujourd'hui, il y a 11 pays qui en font partie et qui donc vont tout naturellement retirer leur monnaie nationale et faire place à l'euro. À partir du 1er janvier prochain, le 1er janvier 2001, ce sera la Grèce qui constituera le 12e membre. Si le Danemark devait lui aussi opter pour l'euro, nous serions 13 États à avoir l'euro dans quelques mois. Il ne resterait à ce moment-là plus que la Suède et le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni parce qu'il a l'exception, la Suède parce qu'elle ne remplit pas encore toutes les conditions, qui alors verront à quel moment ils peuvent ou doivent nous rejoindre. Donc en soi, ce n'est pas un problème, tous ces cas sont couverts et dans le cas des pays qui ont un régime d'exception, ils sont absolument libres de décider de renoncer à l'exception dont ils bénéficient ou de continuer à en bénéficier.
À l'Union européenne, c'est une question que j'avais demandé. Est-ce que la capitale, c'est Bruxelles? Pourtant, la Commission, le Conseil, le Parlement se trouvent à Bruxelles. Où est la capitale de l'Union européenne?
C'est une question politique. Aujourd'hui, on peut dire ceci au choix. L'Europe n'a pas de capitale, ou en tout cas, elle n'a pas de capitale unique. Elle possède 3 villes qui sont chacune des sièges. Bruxelles regroupe un grand nombre d'institutions européennes à titre permanent. La Commission européenne, par exemple, est à Bruxelles. Mais il y a également Luxembourg, où le Parlement européen se réunit quelques fois par an et qui comporte d'autres institutions européennes, telles la Cour européenne de justice. Et il y a également Strasbourg, qui est, par accord entre les États membres de l'Union, le siège officiel du Parlement européen. Donc, et ceci, c'est l'héritage historique. On ne peut pas, par décret, par oukase, se mettre d'accord sur une ville. Ajoutons par ailleurs que si on décidait qu'une seule ville obtienne le statut de capitale de l'Union européenne, cela reviendrait quelque part à faire un pas en avant vers une véritable fédération européenne, un petit peu comme Berlin est la capitale de l'État fédéral allemand, comme Washington est la capitale de l'État fédéral américain. Et c'est un pas que les États membres ne sont absolument pas prêts à franchir aujourd'hui. C'est un processus long. L'Europe est composée d'États-nations où la notion de souveraineté nationale est encore extrêmement vivace. Et donc, ce n'est pas demain que l'Europe décidera de se doter d'une capitale unique. Elle a trois villes qui sont trois sièges. Il faut cependant ajouter que Bruxelles, par sa position, par le fait d'abriter bon nombre d'institutions, y compris des institutions telles l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, est devenue un petit peu le centre nerveux où s'élaborent d'importantes décisions politiques.
Dans ce triangle, est-ce qu'il y a une hiérarchie qui a plus de pouvoir que l'autre ? Ou alors c'est un travail complémentaire
Vous avez cité les trois institutions, Commission, Conseil, Parlement. Elles constituent en quelque sorte effectivement un triangle qui n'est pas un triangle des Bermudes où les choses se perdent, et qui est un triangle institutionnel où effectivement chaque institution incarne un principe fondamental. Et voilà pourquoi ils sont complémentaires et ils ne peuvent absolument pas fonctionner l'un sans l'autre. La Commission incarne dans cette construction européenne qui est, je le rappelle, une construction de nature supranationale puisqu'elle assemble 15 États en une entité, qui n'est pas une fédération, mais une entité gouvernée par des traités et qui se donne des lois qui sont applicables à tous. Dans cette construction, la Commission représente le principe supranational. Elle possède des compétences supranationales parce que les propositions qu'elle fait concernent l'ensemble des 15 États. Et une fois ces propositions adoptées, elles deviennent lois et elles s'appliquent à tous les États. Le Conseil des ministres, quant à lui, incarne la souveraineté nationale, qui, comme je vous l'ai dit, est encore extrêmement forte et vivace, c'est une composante essentielle, la colonne vertébrale des États membres de l'Union européenne, et ces États conservent une part très importante du pouvoir de décision, car pour qu'une proposition faite par la Commission, cette instance supranationale, soit appliquée, il faut qu'elle soit adoptée par les États membres représentés dans le Conseil des ministres et qui lui représente le principe de la souveraineté nationale. Et donc, il y a là une relation dialectique très, très caractéristique, probablement unique et mouvante, entre le principe de supranationalité représenté par la Commission, accepté par les États membres, et le principe de souveraineté nationale incarné par les États membres, représenté par le Conseil des ministres. Quant au Parlement européen, il est élu par tous les citoyens au suffrage universel pour 5 ans. Il a donc une légitimité démocratique plus grande que les deux autres institutions, et il incarne la fonction de contrôle démocratique du processus décisionnel tel qu'il s'élabore entre Commission et Conseil, en y associant de plus en plus étroitement le Parlement. Donc c'est vraiment un triangle institutionnel qui ne peut pas fonctionner s'il devait être privé d'une de ses pointes, d'une de ses institutions, dans laquelle chaque institution joue son rôle et dans laquelle il n'est pas possible pour une institution de se soustraire au processus et de décider à l'insu des autres ce qu'elle souhaiterait.
Alors, Monsieur Georges Ingberg, c'est par curiosité intellectuelle, vous savez que nous sommes à l'autre rive de la Méditerranée, votre adhésion à Maastricht est de 100%, mais on entend aussi qu'il y a des gens qui sont contre. Quelles sont leurs appréhensions, les gens qui sont contre?
C'est très simple. Il n'y a d'adhésion à 100% que dans les démocraties dites populaires ou les systèmes totalitaires. L'Europe démocratique, elle, est habituée à des mouvements d'opinion publique en sens divers. La démocratie, par définition, admet la contradiction. Elle se nourrit de ces contradictions. Elle ne peut d'ailleurs progresser qu'à partir de ces contradictions. Et donc, effectivement, le traité de Maastricht a soulevé des objections. Il y a eu une fameuse bataille d'opinion publique, notamment en France, au moment de son adoption, parce qu'il a suscité les appréhensions de ce que l'on peut appeler ceux qui sont attachés à la souveraineté nationale et qui voyaient dans le traité de Maastricht une menace, parce qu'effectivement, la souveraineté nationale se trouverait trop sérieusement atteinte, écornée, affectée. Or, il faut bien rappeler que les États membres, une fois qu'ils ratifient les traités, ratifient aussi le principe de cession volontaire de parties ou de fragments de leur souveraineté nationale, mais pas au bénéfice d'un autre État, mais au bénéfice d'une entité collective qui s'appelle l'Union européenne. Toute l'histoire de l'intégration européenne peut s'analyser comme un processus lent, graduel et accepté de transfert de parcelles de souveraineté nationale au bénéfice de l'entité commune appelée hier Communautés européennes, aujourd'hui Union européenne. Donc Maastricht, parce qu'il introduisait une monnaie unique, parce qu'il introduisait le principe d'une politique étrangère, parce qu'il offrait de nouveaux citoyens, de droits aux citoyens, parce qu'il amenait les États à collaborer en matière de lutte contre le crime organisé et en matière de régulation de l'immigration, représentait en quelque sorte de nouvelles avancées, une nouvelle avancée de la dimension européenne dans des domaines qui jusqu'alors étaient jalousement réservé à la souveraineté nationale. C'est face à cette évolution que les partisans de la souveraineté nationale entière, pure et dure, qui est un mythe entre nous soit dit, se sont cabrés et ont dit on va trop loin. Mais malgré cela, très démocratiquement, notamment les Français, mais tous les autres États également, se sont prononcés majoritairement en faveur de l'adoption de ce traité. Et donc on dit oui à l'avancée de l'intégration européenne et à la cession volontaire de nouvelles parcelles de leur souveraineté. Et donc aujourd'hui, ce débat est vidé, n'a plus lieu d'être. Il se peut qu'il ressurgisse à l'avenir lorsque de nouveaux traités devront sceller de nouvelles étapes de l'intégration européenne. Mais cela est normal, c'est la vie. Chacun doit pouvoir s'exprimer au sein d'un véritable débat démocratique.
L'idéal pour l'Europe, ce serait combien ? Elle regrouperait combien de pays européens ?
Il n'y a pas d'idéal, c'est-à-dire que nous n'avons pas d'objectif préétabli, n'est-ce pas ? Nous n'avons pas de plan d'intégration, d'annexion, d'assimilation d'autres pays. Il appartient à chaque pays qui fait partie de l'Europe, qui remplit les critères fondamentaux que j'ai rappelés, c'est-à-dire être une démocratie, admettre le multipartisme et le régime parlementaire, avoir une économie de marché et respecter les droits de l'homme. Il appartient à chacun des pays donc qui fait partie de l'Europe, remplit ces conditions, de décider si oui ou non il juge dans son intérêt et souhaitable d'adhérer à l'Union européenne. Alors, le cas de la Turquie est un cas un peu particulier. Si vous voulez, on va peut-être y revenir dans quelques instants, parce que la Turquie, ce n'est pas rien que l'Europe, puisque la majeure partie de son territoire est en Asie mineure. Oui. Donc, nous allons peut-être en reparler brièvement, si vous voulez. Mais il n'y a actuellement pas de limite théorique. Il est certain que la question d'intégration de nouveaux pays ne se posera pas avant très longtemps, puisque nous mettrons, comme je vous l'ai dit, peut-être une dizaine d'années à intégrer les 12 pays qui sont actuellement candidats à l'intégration, parmi lesquels pas moins de 10 pays d'Europe centrale et orientale. Donc la question ne se pose pas aujourd'hui de dire mais où s'arrêtera l'Europe ? Nous sommes en train d'amorcer le processus d'élargissement pacifique de l'Union et d'intégration pacifique de 12 membres. Une fois ce processus achevé, l'Europe aura des priorités différentes. Elle va jeter un regard différent sur les autres pays européens et nous verrons à ce moment-là qui demandera encore à adhérer ou pas, et ils décideront ensemble des nouvelles étapes éventuelles de l'élargissement pacifique de l'Union européenne.
L'Union européenne, le regard qu'elle a aujourd'hui sur les pays du Maghreb, et plus particulièrement sur l'Algérie.
Sur le plan politique, l'Union européenne souhaite bien entendu créer en Méditerranée une zone de paix et de stabilité également. C'est de l'intérêt mutuel des deux parties. Il est d'intérêt important pour les pays d'Afrique du Nord d'élever leur niveau de vie. Il n'y a pas de prospérité sans paix et sans stabilité. Si ces pays sont en proie à des convulsions internes, ça se fait au détriment, forcément, de leur expansion économique et donc au détriment de l'élévation du niveau de la population, du niveau de vie de la population. Il est donc de l'intérêt géopolitique majeur de l'Europe de préserver ou de rétablir une zone de paix, de prospérité et de stabilité en Méditerranée. d'autant plus que ces pays sont nos partenaires, ne fût-ce que pour la vente de pétrole et de gaz. Et cela fait partie donc de la sécurité d'approvisionnement, et il convient donc d'essayer de créer un véritable contrat de confiance et d'intégration économique entre ces deux rives de la Méditerranée, dont les deux partenaires puissent bénéficier dans leur intérêt.
Est-ce que vous croyez à un Maghreb uni ?
Je vais être très honnête avec vous, je ne pense pas que les conditions soient actuellement réunies pour un Maghreb uni. J'ai encore en mémoire, un petit peu à côté du point de vue géopolitique, les tentatives d'intégration de l'Égypte et de la Syrie sous le vocable République arabe unie. Oui. Je crois que ces pays avaient des systèmes politiques, économiques et sociaux trop différents pour pouvoir véritablement construire une union. Donc je pense, pour faire court bien entendu, car oui, cela appellerait de longs développements, je pense que tant que ces pays n'assurent pas une certaine stabilité politique et économique, ne peuvent pas partager un nombre minimum de valeurs fondamentales, ne peuvent pas s'ouvrir les uns aux autres et ne peuvent pas instaurer entre eux une paix et une collaboration durable, que les conditions ne seront pas réunies pour un Maghreb uni.
Pourtant, l'Europe en 1951 n'y croyait pas et les choses se sont faites au fil des années.
Alors, c'était M. Georges Hindberg, administrateur principal au niveau de la Commission européenne, actuellement sur la formation de l'euro. Et auparavant, nous avions M. Robert van der Mullen, chef de l'unité Maghreb. Alors, l'Union européenne est en train de faire donc le bilan de MEDA 1, les grandes tendances pour MEDA 2. Il y a donc un côté positif dans la mesure où l'Union européenne s'est engagée financièrement pour une somme importante de 5 milliards de dollars avec un rythme d'un milliard par an dans des projets valables. Merci à mes auditeurs et donc à la semaine prochaine.